Quelle est l'importance de la nouvelle opération de révision du fichier électoral à Kinshasa?
Elle est importante car elle permettra aux électeurs de Kinshasa qui ont obtenu leur carte d'électeur en 2009 de bénéficier d'une nouvelle carte avec les informations sur leur province, leur territoire et leur groupement d'origine. Cette nouvelle carte ne comportera plus de code de leur site, mais le nom du lieu de vote. Attention, à la fin de cette opération, toutes les cartes émises en 2005 et 2009 ne seront plus valables. J'ai ma carte d'électeur, je voterai. Et toi?
Nous sommes aussi sur rendez-vous de notre rubrique Service Plus. Nous allons nous rendre à Kananga où on nous signale les travaux de modernisation de la voirie urbaine. Nous aurons un invité qui pourrait nous éclairer là-dessus. Mais d'abord, ce sujet, consommation excessive de la viande, à quel danger s'expose-t-on? Nous avons en ligne le professeur Bidengija Madika. Professeur Madika, bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, nous parlons de la consommation excessive. Ceux qui consomment de manière excessive la viande sont vraiment exposés à des dangers?
Merci d'abord pour l'interview. Il faut dire que le sujet que vous avez abordé, c'est un sujet très très important, et surtout lorsque nous nous mettons dans des grandes métropoles, comme ici à Kinshasa, où la viande est considéré comme un indice de noblesse et qui va résoudre un certain nombre de problèmes pour des raisons psychologiques, pour des raisons peut-être des habitudes alimentaires. La population trouve qu'il faut consommer de la viande, mais cette viande est un aliment comme les autres et normalement la consommation devrait répondre aux exigences de l'organisme, parce que tout ce que nous mangeons, l'homme mange pour couvrir les besoins nutritionnels. Ces besoins, on peut classer en deux groupes, besoins de matière, besoins plastiques pour la constitution et l'entretien de la charpente, et besoins d'énergie juste pour la production, l'entretien et l'utilisation de la chaleur, régulation de la température, etc. Tout cela devait tenir compte d'un certain nombre de critères. Ces critères, c'est à la fois en rapport avec l'âge, avec le sexe, l'état physiologique, le climat, l'activité physique. Et il fallait également qu'on tienne compte de la complémentarité des aliments, parce que les protéines seules ne vont pas répondre à toutes les exigences de l'organisme. Nous avons à côté les féculents, le sucre, le miel, le maïs et consorts. Nous avons la graisse, les lipides, et à côté nous avons les éléments appelés oligo-éléments, qui sont les vitamines et les minéraux. Tout cela devait être pris en considération lorsque on veut remonter l'échelle de sa valeur et paraître bien nourri. Nous n'avons pas entré.
Oui, professeur, juste une question de curiosité, parce qu'en croire vos propos, je retiens que pour avoir l'équilibre métabolique, il faudrait que tous ces éléments-là soient pris en compte. Donc, le féculent, les graisses, et puis les oligo-éléments. Donc, il faut que l'alimentation soit équilibrée.
C'est justement de l'équilibre alimentaire dont je devais parler. Je parle de combien de temps on va disposer. Une alimentation équilibrée doit comprendre les protéines, la viande, le poisson, dont il est question ici, doit comprendre les lipides, les graisses et les hydrates de carbone que nous appelons féculents. Bien sûr, chacun de ces constituants contient en soi des oligo-éléments en quantité plus ou moins suffisante. Alors, cet équilibre, on considère d'abord, si on tient compte de l'âge des facteurs déjà évoqués, et pour toute personne, on conseille pour les protéines que la quantité par 24 ne doit pas dépasser 20 grammes. les hydrates de carbone ou les féculents, il faut varier, ça doit varier entre 50 et 60. Et le reste, vous allez donner sous forme de liquide. Voilà un peu un équilibre qui doit être respecté. Encore faudra-t-il qu'on dise un mot sur l'utilisation pour que ces aliments puissent profiter. Il y en a qui doivent être consommés en même temps. Or, il y en a qui peuvent nuire l'absorption des uns comme des autres, ou des autres.
Oui, professeur Mabika, l'excès, on peut le résider à quel niveau? Au niveau de 50 grammes ou peut-être moins?
L'excès, lorsque nous parlons des protéines, tout apport non justifié dépassant 20 grammes dont je parlais peut être déjà considéré comme un excès. Pourquoi? C'est parce que les protéines, nous allons voir rapidement quels sont peut-être le rôle et surtout quels sont les inconvénients. Donc, lorsqu'il y a disproportion dans ces contenus, il y aura un effet qu'on peut considérer comme nuisance. Donc, l'assimilation peut ne pas se faire comme il faut, d'une part. D'autre part, on risque d'avoir la conversion de certains substrats vers d'autres, juste pour supplier. Donc, c'est à ce terme-là qu'on dit qu'il faut que ces proportions soient respectées. S'il n'y a pas suffisamment d'hydrates de carbone, on va consommer les protéines pour que ces protéines, les acides aminés, soient convertis en hydrates de carbone.
Oui, professeur Mabika, nous allons éclairer encore davantage de nos auditeurs. Nous parlons de la consommation de la viande. Vous avez classé la viande qui est riche en lipides, hein, vous avez dit, riche en graisse. Alors, aujourd'hui, l'excès, vous l'avez si bien dit, c'est au-delà de 20 grammes. Qu'est-ce qui s'ensuit généralement?
La consommation de la viande, nous ne pouvons pas d'emblée dire qu'elle sera mauvaise lorsqu'on l'a bien choisie. Si nous parlons de la viande qui directement peut être considérée comme fibre, c'est la viande contenant beaucoup de graisse. Parce qu'il existe la viande maigre.
Mmh.
Lorsqu'on consomme une viande trop riche en graisse, c'est le cas avec la viande kappa, qu'on a l'habitude de vendre ici et qui coûte moins cher, c'est également la graisse viscérale ou les viscères que les gens aiment prendre autour du verre. Nous allons être exposés à ce moment-là aux effets de l'accumulation de la graisse. Le premier effet, c'est l'obésité. Et cette obésité, elle est pourvoyeuse de mille et une maladies, dont l'hypertension artérielle, le diabète, la goutte. Et si nous prenons les protéines comme telles en excès, nous avons des radicaux acides et l'organisme va être inondé d'acides parce que là nous dépassons les seuils du pH. Le pH, c'est-à-dire la teneur en hydrogène de l'organisme. Donc quand le pH baisse à cause de l'apport des protéines qui apportent beaucoup de radicaux acides, nous risquons de nous trouver en dessous de 7,4 et le seuil inférieur c'est 10,9. Donc le pH descend en dessous de ces chiffres-là, la mort est certaine.
Oui, professeur, ça dépend quand même d'un organisme à un autre.
D'un organisme à l'autre, comme j'ai dit, ça peut dépendre aussi de l'âge, ça peut dépendre de l'état physiologique. C'est-à-dire que chez l'enfant, l'apport protéique doit répondre aux normes de l'OMS et les pédiatres vont se référer à ces normes-là pour conseiller la quantité de lait, hein, par exemple, en bas âge, disons, chez l'enfant, jusqu'à un certain âge. Ça va dépendre également du sexe, la femme ou l'homme, il s'agit là de donner les éléments qui vont entrer dans le maintien de l'équilibre chez la femme, ça peut être différent. Et l'homme, il peut également tenir compte des états physiologiques.
Mm-hmm.
Une femme enceinte ne devra pas manger comme n'importe quelle femme. Le climat doit être pris en compte et pourquoi pas l'activité physique. Donc, d'un individu à l'autre, ça veut dire qu'il faut tenir compte de tous ces facteurs-là et juger maintenant de la quantité qu'il faut de protéines à prendre, tout en respectant ce que j'ai appelé l'équilibre entre les différentes constitutions.
Oui, mais on remarque souvent, professeur, que dans bien des cas, les gens souffrent de la goutte, hein, comme vous l'avez dit, mais ils sont parfois aussi épargnés par l'obésité. Mais la goutte, elle est vraiment fréquente.
Dire qu'ils sont épargnés pour l'obésité, c'est une façon de voir la chose. La définition de l'obésité, c'est une définition qui n'est pas à apprécier dans la population parce que la tendance, la psychologie veut tourner un gros repos, c'est pour un mania et grosse légumes, c'est un signe de bien-être. Mais sur le plan, ils ne font pas cela de la même manière parce que nous avons des paramètres qui nous permettent de définir quel est l'état normal et quel est le poids normal. Quelle est la circonférence normale pour l'abdomen chez la femme et chez l'homme? Donc, nous prenons ces éléments en compte et nous avons des limites au-dessus desquelles nous parlons de la surcharge ou de l'obésité et nous avons des limites en dessous desquelles nous parlons de la maigreur ou bien de la dénutrition. Donc, ceux qui présentent une goutte, ceux qui n'ont pas l'obésité, je ne sais pas selon quels critères, mais sur le plan médical, nous savons que l'obésité, la goutte, le diabète, l'hypertension, ce sont des maladies sœurs. Parce que toutes ces maladies ont un substratum commun, on appelle insulino-résistance, et celui qui a fait la goutte n'est pas loin de faire le lendemain le diabète. Et comme je viens de le dire, en termes d'obésité, rien ne prouve qu'il n'est pas obèse.
Mmh. Et professeur, alors quelqu'un qui souffre de l'obésité et qui consomme excessivement la viande. Et c'est cette personne-là s'expose aussi à des dangers énormes, parce que là, ça sera la graisse, des graisses en excès.
Non seulement la graisse en excès, et j'ai dit ici que ces gens, ils ne vont pas seulement prendre la viande. Parce que la graisse, elle est la résultante non seulement de protéines, mais elle est également la conséquence de la constipation, du manque d'utilisation des féculents, des hydrates de carbone. Hein, l'excès qui n'a pas été brûlé pour donner l'énergie va être stocké sous forme de graisse. Donc vous comprenez que ces gens qui adorent la viande, s'ils n'ont pas le contrôle sur les féculents, ben, ils sont susceptibles de faire et nous allons nous retrouver dans un cercle un peu vicieux.
081-890-63-94, c'est pour les appels, et les 081-070-20-50 pour les SMS.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Charlie.
Professeur, vous avez parlé de la viande kappa, comme on appelait kappa, qui contient quand même beaucoup de graisses, qui peut causer quand même beaucoup de problèmes aussi des personnes. Mis à part le kappa, est-ce qu'il y a encore, parce que c'est vrai, les quinois, tout comme les congolais, raffolent de la brochette, ils aiment bien manger la brochette, comme on appelait les kamundélés, et dans bien des cas, c'est kamundélés, c'est fabriqué par la viande kappa, hein, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a d'autres viandes qui peuvent aussi causer du tort à ceux qui les consomment?
Merci pour la question. Justement, la viande kappa, je sais que c'est parce qu'elle est connue de tout le monde comme étant trop riche en graisse. Mais vous avez ici, à Kinshasa par exemple, vous avez ce qu'on appelle, les cuisses, vous avez la volaille. La volaille qui remplit le marché. Et quand vous regardez de près cette chair-là de volaille, c'est plein de Donc, ce n'est pas seulement l'agent, c'est également la volaille, elle est pleine, les dindons, tout ce que vous voyez là. Donc, les pattes, on reçoit seulement les pattes et d'autres parties inutilisables ailleurs, on les draine ici. Et comme la graisse elle-même, elle a un bon goût, donc c'est ça qui attire les gens qui aiment bien manger, et surtout la partie qui contient la graisse.
Et vous avez parlé de l'état physiologique de quelqu'un qui joue derrière un rôle très important. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont réellement prédisposées à souffrir notamment de la goutte après avoir consommé excessivement de la viande, ou d'autres sont épargnées par rapport à leur état physiologique?
Oui, la goutte, c'est une pathologie qui est la conséquence qui est due à l'accumulation de l'acide urique. Acide urique qui est un constituant ou un produit inspiré des protéines, carrément de la viande. Donc, lorsqu'il y a trop de production, une production excessive d'acide urique, c'est-à-dire une consommation importante d'aliments riches en purine qui vont donner l'acide urique, la personne peut être exposée à faire la goutte. Il y a également l'autre possibilité, c'est la consommation est normale, mais l'organisme ne dispose pas d'un système de dégradation qu'il faut. Là, nous rentrons dans le domaine des enzymes, des cofacteurs, qui peuvent faire que la personne consomme une quantité supportable, acceptable de protéines, mais ne s'est pas éliminé. L'acide urique, l'acide va s'accumuler, ou alors la personne produit de manière exagérée sans que l'apport soit important. Cette personne a beaucoup de chances de faire la goutte. Donc il y a les facteurs génétiques, prédisposition de la personne, et donc on ne tient pas compte parce que nous avons très peu d'informations sur les maladies de nos parents. Et il y a également les abus, une consommation exagérée. Donc, je suis ici sur le plan secondaire. Quand on mange ces viandes, il y en a qui vous disent qu'ils ne peuvent même pas toucher aux légumes, aux végétaux. Cet apport peut constituer un danger. Il y a aussi, bien sûr, l'effet des boissons comme l'alcool, donc qui vont. Qui accompagne souvent la consommation de la viande et surtout des viandes présentées sous forme de brochettes dont on
oui, professeur Mabika, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison que les gens réfléchissent par rapport à ce que nous observons au derrière de la société. Et actuellement, les femmes grossissent au niveau du ventre. Certains observateurs disent que c'est l'effet de la consommation excessive des cuisses, des morceaux de cuisses, voilà, donc de volaille. Est-ce que vous partagez cet avis?
En partie, parce que je vous ai dit ici que nous définissons le critère autrement que la population. D'abord, la femme, je me demande si la femme consomme plus que l'homme, les brochettes ou les pâtes. Deuxièmement, la femme, de par la physiologie de son corps, elle est pleine de facteurs qui peuvent. Chez la femme, l'accumulation de graisse chez eux acceptable au niveau et non pas au niveau de l'abdomen. Donc, elle surgit au niveau de l'abdomen, ça commence à inquiéter. On explique généralement que les femmes sont accouchées, cela en disant que c'est la distension abdominale de la grossesse, mais nous savons les travaux dans nos études qui ont. Tous ces cas-là, qui étaient considérés comme des points de tension abdominale à cause de la multiplicité ou de naissance des grossesses. Donc, une femme a un ventre ici de vigueur simplement sous des lumières. Ce final, il passe par l'ombilic. Et si c'est au-delà de 88, c'est inquiétant. Donc, c'est un périmètre qui nous plonge justement dans
le
la surcharge ou bien dans l'obésité du type abdominal, qui est une mauvaise sorte d'obésité parce que c'est celle-là qui expose toutes les complications cardiovasculaires.
081 890 63 94 pour les appels et les 081 070 20 50 pour les SMS. Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont les pertinentes, au Café Service, il met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Capi et si vous nous rejoignez, bienvenue à Au Capi Service. Docteur Richard Mukalenge, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Bonjour Docteur Richard. Nous avons également en ligne Aimé Wabenga qui est en ligne. Bonjour Aimé.
Bonjour.
Vous êtes au nord qui
vous. Je viens de Beni. Ma question est de savoir, il y a certains gens qui sont allergiques. Il va vous dire que quand il mange la viande de la poule ou de la vache, son corps gonfle. Alors, ça, c'est dû à quoi?
Merci, Aimé. Professeur Madika, que répondez-vous à cet auditeur?
La question, elle est pertinente. Effectivement, cela me permet d'entrer directement dans les méfaits d'une consommation exagérée de la viande ou d'une consommation de viande.
Oui, professeur, si vous pouvez bien changer votre position, parce que là, vous sortez vraiment très coupé.
Ah, d'accord.
Oui, vous pouvez peut-être changer juste votre position là où vous êtes.
Ça va maintenant?
Mais plus ou moins, allez-y.
Je disais que la question me permet d'aborder les effets indésirables de la consommation de la viande,
oui.
Que ça soit excessif ou qu'elle soit excessive ou carrément la consommation de la viande. La viande, c'est une protéine. Et qui dit protéine voit l'aptitude à induire la formation des anticorps dans l'organisme qui est étranger à l'organisme qui a fourni la protéine. Parce qu'une protéine d'une espèce entrant dans l'organisme d'une autre espèce est susceptible de conduire à la production des anticorps. Et ces anticorps, il y en a de plusieurs types. Il y a des anticorps qui peuvent être à l'origine des réactions. Et parmi les réactions, nous avons ce qu'on appelle l'allergie. La personne a mangé. Et le lendemain, c'est urticaire, ou même après, urticaire, démangeaison, etc. Tant mieux si elle peut se souvenir qu'elle venait de manger telle viande. On peut l'incriminer. Mais généralement, ça passe inaperçu. Cela peut être aussi l'effet de la dénaturation de la viande. La façon de cuire, de préparer la viande, le cas de Camundéré ici, peut conduire à dénaturer la viande, la protéine, et à son bras, c'est une protéine qui devient anormale à la consommation. L'effet de la chaleur, l'effet de la fumée. Vous comprenez qu'une viande qui reste sur le four des heures et des heures et qui subit une température incontrôlée, vous comprenez qu'une viande qui est exposée du matin au soir à la poussière dans nos milieux, cette viande peut contenir n'importe quoi, des substances allergiques. Et ajouter à cela la dénaturation, on peut avoir des intolérances digestives. Comme on peut également avoir des expressions au niveau des muqueuses ou de la peau. Donc, nous avons là des problèmes qui tiennent à la nature de la protéine. Nous avons également des réactions qui peuvent provenir des ingrédients ajoutés à la viande. Nous avons également là affaire aux microbes ou bien aux substances qui peuvent venir se déposer sur la viande qui reste exposée pendant très longtemps. L'essentiel, c'est de conduire attentivement, de poser la question à la personne si elle peut se souvenir des aliments, l'alimentation prise le jour, la veille, les jours avant, parce que ce n'est pas dans l'immédiat que l'intolérance peut apparaître ou l'allergie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Tout à fait. Nous avons également en ligne Jean-Pierre de Kalima au Nord Kivu, ainsi qu'Armand de Kananga. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Jean-Pierre.
Oui.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour monsieur.
Quelle est votre préoccupation?
Ok, ma préoccupation c'est les suivants. J'aimerais savoir par semaine, homme normal doit consommer combien de fois de la viande ou par mois combien de fois? Parce que il y a des médecins qui disent si vous mangez plusieurs fois de la viande, ça doit créer des maladies. On ne sait pas quelle maladie maintenant.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Armand, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour président de Radio Kapi.
Votre question?
Oui, ma question est de savoir si l'homme qui consomme excessivement la viande simultanément avec les produits alcalins, comme les fruits, peut-il être exposé à la goutte?
Merci beaucoup Armand. Professeur Madika, vous avez deux préoccupations pertinentes, la première de Jean-Pierre et de Armand, et la seconde de Armand.
Oui, la première préoccupation est de savoir combien de fois par semaine ou par mois on peut manger la viande.
Par semaine, quelle est la quantité à consommer par semaine?
La quantité à consommer par semaine.
Oui.
Donc, la quantité, on conseille 0,5 grammes. On peut consommer 0,5 grammes par kilo. Et cela... Mais jusque 3 fois par semaine, c'est amplement suffisant.
Et Armand qui parle de la consommation de la viande, disons, au même moment, en mangeant beaucoup de fruits,
oui.
Et on est toujours prédisposé à souffrir de la goutte.
Consommer beaucoup de viande, manger beaucoup de fruits, ça peut aller. Mais nous avons dit qu'il y a certains aliments qui peuvent altérer la capacité d'absorption de certains autres. Les fruits, en principe, contiennent les succulents, les hydrates de carbone, en faible quantité, et contiennent également, et surtout, les sels minéraux et les vitamines. La consommation du fruit est encouragée parce que nous avons là des antioxydants. Les antioxydants vont aider à éviter l'oxydation des graisses, ce qui est un élément très important qui fait déboucher sur des maladies cardiovasculaires. Donc, celui qui consomme les fruits suffisamment peut déjà se sentir à l'abri de ces complications-là. Mais maintenant, en termes de l'acide urique et de la goutte, les fruits, les vitamines n'entrent pas nécessairement dans le métabolisme des urines. Donc, c'est un problème qui peut ne pas aider ou encourager la personne en se disant je consomme la viande et je veux éviter la goutte. Donc, nous avons dit qu'il y avait des facteurs terrains, la prédisposition génétique. Et dans ce cas-là, si il y a une prédisposition génétique, vous aurez mangé le fruit, ça ne sera pas parce que c'est plus tard. Donc, ça a pu ne pas constituer une garantie.
Professeur Madika, nous rappelons que vous êtes expert en maladies métaboliques et professeur à l'Université de Kinshasa. Merci d'avoir été de notre et à très bientôt.
Beaucoup, c'est moi qui vous remercie.